VC Row, VC Column, VC Column Text. Introduction, l'État peut être défini comme un mode d'organisation politique, doté d'un ensemble d'institutions et d'une autorité souveraine, s'exerçant sur l'ensemble d'un peuple dans un territoire déterminé. En somme, c'est le pouvoir politique institutionnalisé. Il est composé de trois éléments, un territoire, une population et un gouvernement. L'État n'a pas toujours existé. Historiquement, il est apparu, sous sa forme moderne, à la fin du Moyen Âge. À cette époque, le pouvoir était centralisé entre les mains d'un souverain qui se prenait pour le représentant de Dieu sur Terre et qui revendiquait le droit de vie et de mort sur les sujets. Mais au fil des âges, le pouvoir politique s'est détaché progressivement de son origine divine, donnant naissance à des États désacralisés. Et peu à peu, la souveraineté a été pensée comme appartenant au peuple. Le rôle de l'État est diversement apprécié. D'aucuns pensent qu'il est garant des libertés, et d'autres estiment qu'il menace les libertés. L'État serait-il plus à craindre que l'absence de l'État ? L'État est souvent perçu comme une force contraignante envers les citoyens. Il interdit. Mais ne peut-on pas voir aussi ce qu'il permet ? Aussi, avec le phénomène de la mondialisation, les États sont-ils toujours souverains ? Voilà autant de questions auxquelles nous apporterons des réponses à travers l'analyse des rapports que l'État entretient avec la liberté et la mondialisation. Grand 1, la genèse de l'État. Les sociétés primitives n'ont pas connu l'État. Et pourtant, elles étaient bien organisées, selon des règles qui garantissaient la stabilité et la cohésion du groupe. Au fil des siècles, ces sociétés ont donné naissance aux premières formes d'État connues dans l'Égypte pharaonique, à Babylone, dans la Grèce et la Rome antique. Mais au plan historique, l'État moderne n'apparaîtra qu'à la fin du Moyen Âge, sous la forme de la monarchie de droit divin. Il a fallu des révolutions en Europe, couronnées par la Révolution française de 1789, pour renverser la monarchie en remplacement de la démocratie. Du point de vue utopique, l'État vient de ce que Rousseau et Hobbes appellent l'État de nature. Tous deux sont partis d'un postulat, hypothèse, selon lequel il existait un État de nature avant l'existence de la société. Dans son discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, Rousseau avance que l'état de nature est un état de paix où les hommes vivaient solitaires, libres et heureux. La nature pourvoyait à tous leurs besoins, mais à force de la surexploiter et d'être menacée par les bêtes féroces et les catastrophes naturelles, les hommes ont fini par se rendre compte que, séparés, ils disparaîtront progressivement, alors ils ont décidé de se regrouper pour vivre en société. Pour cela, ils ont conclu un pacte que Rousseau appelle « contrat social », qui dispose chaque homme à vivre en groupe et à respecter les lois instituées. Ainsi est né l'État qui est, pour Rousseau, l'incarnation de la volonté générale. Puisque ce sont tous les hommes qui ont élaboré les lois, obéir aux lois de l'État, c'est obéir à soi-même. C'est dans ce cadre qu'il faut comprendre la pensée de Rousseau selon laquelle l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Hobbes est également parti de l'état de nature pour justifier l'origine de l'État. Mais la manière dont il a analysé cette hypothèse diffère de celle dont Rousseau l'a analysée. Selon Hobbes, l'état de nature est marqué par la guerre de tous contre tous. C'est un état où l'homme est un loup pour l'homme. Pour mettre fin à cette hostilité qui menaçait la race humaine d'extinction, les hommes ont décidé de vivre en société pour sauver l'espèce humaine. Ainsi ont-ils signé un contrat social et accepté de se soumettre à un être transcendant, fort et cruel, appelé le Léviathan, chargé de garantir l'ordre. Là où Rousseau dit que ce sont les hommes qui ont fait les lois et qui s'y sont soumis par la suite, Hobbes dit que c'est plutôt le Léviathan qui a la charge de régir des lois à suivre impérativement. La terreur qu'il inspire aux hommes a pour but de les amener à renoncer à leur haine, désir immodéré et jalousie, et de garantir la paix. À travers les théories de Rousseau et de Hobbes, il apparaît nettement que l'État est situé au-dessus du corps social et sa vocation est de trancher les conflits sociaux. Mais il ne peut remplir une pareille mission qu'en recourant à la force. Comme le dit Max Weber, l'État revendique le monopole de la violence physique légitime, Le savant et le politique, 1919. Cette violence fera dire à certains penseurs que l'État est liberticide, alors que d'autres y voient un moyen de garantir les libertés individuelles. D'autre part, l'analyse de la genèse de l'État peut nous conduire à l'analyse de l'origine du pouvoir, c'est-à-dire la manière dont on accède à l'État. Tient-on le pouvoir de Dieu, du peuple ou par la force? Machiavel, 1469-1527, pense qu'on tient le pouvoir par la force. Il dit que le prince doit être fort comme un lion et rusé comme un renard pour conquérir le pouvoir et s'y maintenir. En politique, Machiavel ne tient pas compte des considérations morales et religieuses. Pour lui, la fin justifie les moyens. Peu importe les moyens mis en œuvre, l'essentiel est de conquérir le pouvoir et de s'y maintenir le plus longtemps possible. Contrairement à Machiavel, saint Paul soutient que toute autorité vient de Dieu et que celui qui résiste à l'autorité se rebelle contre l'ordre établi par Dieu. Jean-Jacques Rousseau soutient lui aussi que toute puissance vient de Dieu, mais il précise que seule la puissance dont les hommes sont convenus est légitime. Thomas Hobbes et John Locke, à la place du droit divin, posent le principe du pacte social comme acte de légitimation de l'État. Pour eux, on tient le pouvoir du peuple et non de Dieu. Grand 2, les formes d'État. Une multiplicité de significations a été donnée à l'État. Cela est dû aux différentes formes de régimes politiques dont les uns ont disparu et les autres toujours en vigueur. La démocratie est considérée aujourd'hui comme le meilleur régime politique, car on suppose que le pouvoir est détenu par le peuple. D'ailleurs, on a l'habitude de dire que c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Il existe deux types de démocratie. La démocratie directe, où le peuple exerce directement sa souveraineté, et la démocratie représentative, où le peuple élit ses représentants. L'oligarchie est un régime politique dans lequel le pouvoir appartient à un petit groupe de personnes ou à une classe privilégiée. La monarchie est un régime dans lequel l'autorité réside entre les mains d'un seul homme et est exercée par lui ou par ses délégués. La théocratie est un mode de gouvernement dans lequel l'autorité, censée émaner directement de la divinité, est exercée par une caste religieuse. Le totalitarisme ou fascisme est un régime qui n'admet qu'un parti politique, donc aucune opposition. Exemple, l'Allemagne nazie sous Hitler, l'Italie sous Mussolini et l'ex-URSS. La gérontocratie est un régime politique où les plus âgés sont à la tête de l'État. La ploutocratie est le régime où les plus fortunés sont à la tête du gouvernement. L'aristocratie est le gouvernement des meilleurs ou des nobles. Devant cette pluralité de régimes politiques, il y a des penseurs qui sont pour la démocratie, comme Rousseau, Montesquieu et John Locke, tandis que Platon est favorable pour l'aristocratie. On se rappelle son souhait de voir les rois philosophes ou les philosophes rois. Contrairement aux penseurs qui sont pour un tel régime politique, il y en a d'autres qui ne sont favorables ni pour l'un ni pour l'autre. Ils sont pour la disparition pure et simple de l'État, qui n'existe, pense-t-il, que pour étouffer les individus et remettre en cause leur liberté. Grand 3, les fonctions de l'État. Les fonctions de l'État sont à analyser sous un double angle, au plan intérieur et extérieur. Sur le plan intérieur, l'État a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et de garantir les libertés individuelles. Pour cela, il dispose de moyens contraignants que Louis Althusser appelle « appareils répressifs d'État » comme la police, la gendarmerie, l'armée, la douane, les sapeurs-pompiers, etc. Ils sont dits « répressifs » parce qu'ils répriment, punissent et rappellent à l'ordre ceux qui violent la loi. Parallèlement, l'État dispose d'appareils idéologiques d'État-tés, comme l'école, les syndicats, les lieux de culte, etc. Sur le plan extérieur, l'État a pour rôle d'assurer l'intégrité territoriale au moyen de l'armée. Étant donné que l'État a la possibilité de sévir par le biais de ses institutions compétentes, il est légitime de dire qu'il est une source de contrainte sur les individus. Néanmoins, il leur accorde des droits et veille sur leur liberté et sécurité, d'où les rapports entre l'État et la liberté.